Alors, nous allons lire quelques versets dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Est-ce que c'est moi qui dirige ou c'est... Bien, merci beaucoup. Actes chapitre 10. Nous poursuivons notre série dans les Actes des apôtres. On a commencé, je crois, il y a un an à peu près. Et puis, il y a eu une pause à cause de circonstances que vous connaissez. Et ce matin, il y a deux chapitres qui nous tombent dessus. Ah, ok. Oh là. D'accord, merci beaucoup. Donc, j'avais essayé de ne pas trop bouger. Donc, il y a deux chapitres qui sont devant nous, Actes chapitre 10 et Actes chapitre 11. Nous n'allons pas lire ces deux chapitres, mais ces deux chapitres sont très riches et très intéressants de beaucoup de points de vue. Par exemple, ces deux chapitres nous parlent de la géographie au Moyen-Orient. Il est question de Nazareth, Jérusalem, Césarée, Jaffa, Cyrène, Antioche, l'île de Chypre. On pourrait parler rien que de la géographie, mais on ne va pas parler trop de géographie. Il est question de jeûne et de la prière. On aurait pu parler de ça. Il est question du ministère des anges. Un ange apparaît à un certain Corneille, un Italien, un centenier. Il est question du racisme. Il est question aussi des groupes de quartier. Et Pierre est l'invité d'honneur à un groupe de quartier. Il est question aussi du parler langue. Les chrétiens qui reçoivent ce don, ils ont pu parler dans des langues étrangères qu'ils n'avaient jamais étudiées ou apprises à l'école ou ailleurs. Il est question aussi de la critique gratuite. Pierre a un ministère béni et des gens qui sont un peu plus loin le critiquent parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi Pierre a agi de cette manière-là. Il est question de la persécution, de la solidarité entre les chrétiens. Il est question de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, qui œuvrent ensemble et en harmonie. Mais, ceci dit, nous n'allons pas parler de tout ça. Nous allons nous limiter à quelques versets. Et avant de lire ces versets, je vais vous montrer un petit résumé de ces deux chapitres, si vous voulez le voir. Au début, il y a la préparation. Dieu prépare le cœur de Corneille pour rencontrer Pierre et pour rencontrer Jésus. Et Dieu prépare le cœur de Pierre pour rencontrer Corneille. Préparation. Ensuite, prédication. C'est ce que nous allons lire. La prédication de Pierre, qui est bien sûr un résumé de sa prédication. Sinon, il aurait prêché pendant 3 minutes. Ensuite, explication. Pierre explique pourquoi il a osé aller chez des non-juifs, même dans leur maison, pour leur parler de l'évangile. Et puis par la suite, édification, et il n'est plus question de Pierre, il est question de Paul et de Barnabas, qui voyagent dans les églises pour enseigner et pour édifier les chrétiens. Ceci dit, nous allons lire juste la prédication de Pierre. Donc, je vous invite à trouver Actes 10, verset 34, et je lis à partir donc de verset 34. Actes 10, 34. Alors, Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toutes les nations, celui qui craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien, et en guérissant tous ceux qui était sous la domination du diable, parce que Dieu était d'abord. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur des non-juifs. En effet, il les entendait parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, comme nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Il s'agit de la première prédication à un auditoire composé presque uniquement de non-juifs. Au chapitre 11, nous disons que Pierre est accompagné par six frères, six juifs convertis. Mais sinon, les auditeurs de cette prédication, c'était uniquement des non-juifs. Alors, je vais diviser cette prédication en quatre parties, quatre aspects. Il y a un aspect théologique, parce que Pierre parle de Dieu, Théo. Il y a un aspect christologique, parce que Pierre parle de Jésus. Dans sa prédication, il parle de Jésus. Il y a un aspect historique, parce que Pierre n'avait aucun doute que Jésus avait vraiment existé. Et puis, il y a un aspect prophétique, parce que Pierre jette un œil vers l'avenir, mais il jette un œil vers le passé, l'ancien testament. Il fait allusion à ce que les prophètes avaient écrit au sujet de Jésus. Donc, quatre aspects que j'aimerais souligner dans cette prédication. Donc, l'aspect théologique. Pierre dit, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de chouchou. Il n'aime pas une personne plus que l'autre. Aux yeux de Dieu, tout le monde est logé à la même enseigne. D'ailleurs, ce que Pierre fait ici, il répète un verset dans Deutéronome qui dit carrément, Dieu ne fait pas de favoritisme. Quelle que soit la nation, quelle que soit la nationalité, nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Mais, il ajoute, même si on est tous égaux, on peut lui être agréable en faisant le bien. Il ne dit pas qu'on peut être pardonné en faisant le bien. Mais Dieu tient compte du bien que les gens peuvent faire. Mais cela ne suffit pas pour être agréable à Dieu, pour être pardonné, pour être sauvé, pour être adopté dans la famille de Dieu. Faire le bien, oui, mais l'essentiel, c'est d'être pardonné par le choix. Il y a une trentaine d'années, il y avait un jeune homme, un jeune japonais qui s'appelait Matsuoka. Ça fait japonais, n'est-ce pas? Matsuoka. Son père était moine bouddhiste, son frère était moine bouddhiste, et il se disait, mais est-ce que je devrais devenir moine bouddhiste? Il est venu en Corée du Sud pour étudier, il a connu des chrétiens, et en lisant la Bible avec des chrétiens, des jeunes chrétiens, il a vu le mot pécheur. Et en japonais, le mot pécheur, c'est le mot traduit criminel. Que tout le monde est criminel. Et lui, il dit, je suis né dans une bonne famille, des parents qui aiment, qui s'aiment, qui nous aiment, et je fais du bien. Je ne suis pas un criminel. Mais petit à petit, le Saint-Esprit a commencé à le convaincre dans son cœur. Mais aux yeux de Dieu, tu es comme un criminel. Tu as enfreint toutes les lois de Dieu. Et Matsuoka, ne me demandez pas trop de répéter ce nom, il s'est converti. Il s'est rendu compte, j'ai fait du bien, mais ça ne suffit pas. Et il a confessé, Seigneur, je suis un criminel, je suis un pécheur. Et Dieu a permis qu'il retourne dans son pays pour vivre. Donc, faire du bien, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. On a besoin de se repentir. Autre chose que Pierre dit au sujet de Dieu dans ces versets, c'est que Dieu a pris l'initiative. Dieu a envoyé, verset 36, sa parole aux Israélites. Dieu est le Dieu du premier pas. Il a pris l'initiative pour envoyer sa parole aux Juifs. Il a pris l'initiative pour envoyer son Fils sur terre. Il a pris l'initiative pour envoyer son Saint-Esprit. Et Dieu a pris l'initiative pour envoyer son message du pain. Dieu est le Dieu du premier pas. Et quand on pense à notre passé, tranquillement, on peut dire, mais Seigneur, c'est toi qui m'as conduit. C'est toi qui m'as parlé. C'est toi qui as ouvert ta porte. C'est toi qui as permis que je connaisse la Bible, que je me convertisse. Dieu prend l'initiative. Un aspect, donc, théologique. D'ailleurs, voilà les deux versets. Deutéronome 10, 17, que Pierre cite, et qui est aussi cité dans Romains 2, verset 12. Deuxième aspect, un aspect théologique. Plutôt christologique, on va dire. Il parle de Jésus-Christ. Et il dit deux choses. Jésus est la source de la paix et Jésus est le Seigneur. On a déjà évoqué la paix qui vient de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence. Ou dans une autre version, la paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Dans la Bible, Sommeur 21. La Bible, Second 21. Jésus est la source de la paix. Et quand on se convertit, nous avons la paix avec Dieu. Nous recevons la paix de Dieu. Nous recevons la paix avec nous-mêmes. Et parfois, c'est une lutte. Et puis, nous recevons normalement la paix avec nous. Parce qu'on commence à être normalement un artisan de Dieu. Et on partage le message. Jésus est la source de la paix. Et bien sûr, il est appelé le prince de la paix. Et parfois, quand on est troublé, qu'il y ait la COVID ou pas, on a parfois besoin de se calmer, de se mettre dans la présence du Seigneur et de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu envahisses mon cœur et ta paix. Il est envahi de toutes sortes d'histoires, de problèmes, de défis, de difficultés, d'inquiétudes. Seigneur, chasse, s'il te plaît, remplis mon cœur. Jésus, le prince de la paix. Shalom. Shalom. La paix en nous, la paix autour de nous, la paix sur nous. Shalom. Jésus est le prince de la paix. Mais aussi, il dit, Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur de tous. Et à quelques minutes en voiture d'ici, il y a, je ne sais pas dans quel arrondissement, mais l'église Sainte-Blandine. Et Blandine était une jeune femme il y a, du deuxième siècle qui a refusé de dire César est Seigneur. Elle a dit Jésus est Seigneur. Et avec d'autres, ils ont été massacrés par les autorités romaines. Tout le monde disait « César est le Seigneur ». Et quelqu'un disait « Jésus est Seigneur ». Et ça leur a coûté la vie. Il y a même une sculpture au-dessus de l'église de Saint-Blandine avec Blandine et les animaux prêts à la massacrer. Jésus est le Seigneur. Et nous ne devons pas oublier ça, qu'il contrôle notre situation, nos situations. Il est le Seigneur dans ce monde. Et rien ne se passe sans qu'il l'autorise, sans qu'il le permette. Dans certaines églises en Grande-Bretagne, derrière la chair, il y a ce verset, Jésus-Christ, Seigneur de tous. Parce que nous avons inauguré notre salle à Arras il y a 15 ou 16 ans, plusieurs personnes dans l'église ont dit, mais il nous faut mettre un verset derrière la chair. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Et plusieurs personnes ont proposé, et on peut mettre le texte de Philippiens 2, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, c'était fabriqué par un groupe de femmes, et c'est encore là aujourd'hui, après 15, 16 ans, en place, Jésus-Christ est Seigneur. Et le premier dimanche où on a Après avoir mis ces paroles sur le mur derrière la chaire, c'est moi qui devais prêcher. Et j'ai prêché sur qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ est mon Seigneur. Et j'ai parlé du fait que ça veut dire qu'il y a l'assurance. Il est à nous, nous lui appartenons. Il y a l'aspect de confiance. Il y a aussi l'aspect de l'obéissance. Si vous dites Jésus est mon Seigneur, ça veut dire que vous en êtes sûr. Ça veut dire que vous lui faites confiance. Et ça veut dire aussi que vous obéissez au Seigneur. C'est facile de dire Jésus est Seigneur. Et c'est plus difficile de dire Seigneur, puisque tu es mon Seigneur, je me confie en toi et je t'obéis en toutes choses. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que Jésus-Christ est votre Seigneur? Troisièmement, il y a l'aspect historique. Alors, Pierre dit à ses auditeurs à deux reprises dans ces versets 37 et 41, vous savez que nous sommes peut-être 10 ans après la crucifixion de Jésus, mais tout le monde savait que quelque chose s'était passé. Il y avait des rumeurs, il y avait des mensonges, mais il y avait aussi la vérité qui était partagée. Alors, Pierre évoque le où. Où est-ce que Jésus a travaillé? Il résume le parcours. Jésus a commencé dans le nord, il est allé dans le sud, il était dans la Galilée, en Judée, à Jérusalem, il était au milieu, en Samarie, et Jésus a voyagé. Donc pour Pierre, Jésus faisait quelque chose et il voyageait partout dans le pays. Il dit même Jésus de Nazareth. Intéressant. Jésus n'est pas né à Nazareth, il est né à Bethléem, malgré la première édition du livre Jésus pour les nuls. Une petite erreur, mais c'était corrigé pour la deuxième édition de ce livre. Deuxièmement, il parle du croix. Qu'est-ce que Jésus a fait? Enfin, il résume. Vous savez que Jésus est allé de lieu en lieu faisant du bien, en guérissant les malades et en délivrant ceux qui étaient sous l'emprise de Satan, ceux qui étaient captifs du diable, ceux qui étaient captivés par le diable. Jésus était intervenu pour les guérir et pour chasser tout ce qui les empêchait de le suivre. Voilà ce que faisait Jésus de Nazareth. J'ai compté, je crois, à 7 reprises, on a 7 phrases, Jésus de Nazareth dans les Actes des Apôtres. Parce que uniquement dans des prédications. Pourquoi? Je crois que c'était pour rappeler que Jésus a vraiment existé. Et vous pourrez même interviewer ses copains de l'école qui le côtoyaient il y a des années peut-être. Jésus avait vraiment existé. Jésus de Nazareth. Mais le croix aussi inclut ce qui est arrivé. Et Pierre dit, ils l'ont cloué sur la croix. Il parle de qui? Les ils? Pas les Romains, mais les Juifs. Et plus tard, les apôtres s'identifient en disant, c'est nous. Il est mort pour nos péchés. Il est mort. Il a été enterré, mais il est ressuscité. Encore aucun doute chez Pierre que Jésus était bien vivant. Troisième chose, il évoque le comment. Comment est-ce que Jésus a pu faire tout ce qu'il a fait? Et ici, nous avons une déclaration trinitaire. Il dit, Dieu le Père a oint Jésus par le Saint-Esprit. Jésus était oint, accompagné, rempli du Saint-Esprit. Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus. Jésus n'agissait pas seul. Il agissait par la puissance de son Père, du Saint-Esprit en lui. Ça, c'est le comment. Et il dit aussi, Dieu était avec lui. Emmanuel, La première fois qu'on trouve Emmanuel dans la Bible, c'est Ésaïe 7, puis on le retrouve dans Matthieu 1. En Ésaïe 7, c'est pas Emmanuel qui est marqué, c'est, je crois que je vais vous le montrer. Voilà, Immanuel, et plus loin, elle. Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu est dit avec Jésus. Et moi, je me dis, mais si Jésus comptait sur la présence de son Père par l'Esprit, à combien plus forte raison, pour la vie de tous les jours, nous avons besoin de compter sur lui. Dans le livre de la Genèse 39, je crois bien, il est écrit plusieurs fois, l'Éternel fut avec Joseph. Tout allait bien. Quand tout allait mal, l'Éternel fut avec Emmanuel. Et Joseph était heureux, je crois, d'avoir la présence de l'Éternel, même s'il n'était pas toujours conscient d'avoir cette présence. Si nous voulons vivre aujourd'hui, pour la semaine qui vient, sans compter sur le Seigneur, nous risquons fort de nous casser les dents, la figure et tout le reste. Si nous voulons être libérés d'une mauvaise habitude, si nous voulons témoigner efficacement de Jésus, si nous voulons résister à la tentation, si nous voulons vivre tous les jours pour lui, nous avons besoin de dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi aujourd'hui. Aide-moi dans ce domaine précis. Délivre-moi. Fortifie-moi. Aide-moi à résister. On a besoin de lui. L'Éternel est avec nous. Mais il faut que nous soyons avec lui. Parole d'un prophète dans 2 Chroniques 15, verset 2. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec vous à condition que vous soyez avec nous. Il veut nous aider tous les jours. Il nous tend sa main. Et c'est à nous de prendre sa main. Il prend l'initiative de tendre sa main. Et c'est à nous de dire, Seigneur, s'il te plaît, aujourd'hui, ce soir, demain, je veux marcher avec toi. Et Pierre évoque aussi le qui. Nous sommes témoins, dit-il. Il dit la même chose dans une prédication dans Acte 2, la même chose dans une prédication dans Acte 3, la même chose dans une prédication dans Acte 5. Nous sommes témoins. Encore, aucun doute chez Pierre que Jésus avait vraiment existé. Et il dit même, on a mangé avec, on a bu avec, on a été avec. Jean, au début de sa première lettre, dit plus ou moins la même chose. On a vu, on a entendu, on a touché. Aucun doute, Jésus avait vraiment existé. Et il dit, mais c'est pourquoi nous sommes des témoins aujourd'hui. Des témoins de ce que Jésus a fait. Et Pierre savait que plus tard, il allait être témoin dans le nord, dans le centre et dans le sud du pays. Tout comme son maître, le Seigneur Jésus. Pierre affirme avoir été témoin de tout ce que Jésus avait fait. Et quand il dit nous, il ne parle pas de lui seul, mais d'autres qui étaient avec Jésus. Et pour terminer, le quatrième aspect, un aspect prophétique. Pierre regarde vers l'avenir. Il dit, Jésus le Sauveur sera Jésus le Juge. Jésus va juger. D'ailleurs, Paul dit la même chose dans Acte 17. Et ça a créé un tollé, une émeute. Et le préfet de police à Athènes, à l'époque, a dû faire appel à la CSR, non, à la CRS, pour venir calmer l'émeute. Bref, il faut déjà connaître un peu. Mais, en tout cas, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas. Que Jésus sera le juge. Oh, j'aime pas ça. Jésus le bébé, j'aime bien. Jésus qui meurt sur la croix, on ça va. Mais Jésus le juge, non. Et il le dit. Jésus sera juge, mais juge de tous ceux qui ne viennent pas à lui. Parce qu'il dit Jésus sera le sauveur. Ce qui veut dire que, comme Paul, comme d'autres, il y a deux catégories de personnes. Ceux dont Jésus sera le sauveur, ceux dont Jésus sera. Jésus le juge, Jésus le sauveur. Et il jette un œil vers le passé et un œil vers l'avenir. Et il dit, mais tous les prophètes en parlent de ça. Ce qui veut dire que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont 100% en accord. Et il termine en disant trois petites choses. Nous avons reçu un mandat. Nous, les apôtres, prêcher la repentance. On a reçu un message, un beau message, le pardon des péchés. Et nous avons aussi reçu le Messie, le Christ. Jésus, le Sauveur, Jésus, le Seigneur de tous. Alors, pour conclure, au début de ce message, Pierre parle de la paix que Jésus peut donner. Et à la fin de ce message, Pierre parle du pardon que Jésus seul peut donner. Et beaucoup de gens autour de nous sont en quête de paix ou de pardon. Ils se sentent coupables. Quelqu'un est venu me voir hier et me dit, David, je me sens coupable. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Intéressant, hein? Mais il y a des gens qui se sentent coupables. Et si nous sommes devant Dieu, on peut expliquer sans les défis que devant Dieu, nous sommes coupables. Et nous avons besoin du pardon. Et nous avons besoin de recevoir la paix. Donc, Jésus, dans cette prédication, est présenté comme le Seigneur, le bienfaiteur. Il faisait du bien, il nous fait du bien. Jésus le ressuscité, Jésus le sauveur, Jésus le... Et je pense que dans notre témoignage, lorsque nous avons l'occasion de parler de notre foi à des gens qu'on connaît, on peut souligner un de ces aspects. Jésus, le Seigneur, Jésus qui fait du bien, Jésus qui n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité avec tant de preuves à l'appui, Jésus le sauveur, et Jésus qui sera juge de ceux qui le rejettent. Suite à cette prédication, je me demande combien de temps ça a duré. Certainement plus longtemps que la mienne, et plus longtemps que les 3 minutes de lecture. Mais suite à cette prédication, des gens sont convaincus de leur péché. Ils se convertissent, ils reçoivent le Saint-Esprit, et ils sont baptisés. Tout de suite. Parfois, ça va vite. Très souvent, on dit, ah ben, tu es converti, ben, il faut vous dire ok pendant 6 mois. Et puis, pour mémoriser l'Ancien Testament par cœur. Et puis, une fois que tu seras prêt, bon, on va te baptiser. Bon, il y a aussi une logique. Mais là, c'était hyper. Parfois, ça va vite. Parfois, ça va lentement. Et nous devons suivre le rythme du Seigneur. Il y a 110 ans, Jacques Gribert était chauffeur de tramway dans une grande ville aux États-Unis. Et un samedi, il arrête le tram, et puis une dame descend, et puis il repart. Il n'a pas vu que la dame était tombée sous les roues, et il a écrasé. Mort. Samedi. Alors Jacques, qui n'avait jamais mis les pieds dans une église, décide d'aller dans une église. Et dans sa ville, il y avait une multitude d'églises. Heureusement, il est allé dans une vraie église évangélique. Il a entendu le message de l'évangile et le dimanche matin, il s'est converti. Tout de suite, en lisant la Bible pendant le message et pendant le sang, il a compris qu'il y a le baptême. Donc, il parle avec des gens à la fin du culte, mais c'est quoi le baptême? Et on explique, il dit, je vais baptiser ce soir. Le dimanche soir, baptisé. Le lendemain matin, en lisant la Bible, Dieu lui parle par Marc 16. Il écrit, vous serez mes témoins, vous irez partout dans le monde pour témoigner. Donc, le lundi, Dieu l'appelle à être missionnaire. Il est parti 3 ans plus tard. Donc, il a fait toute sa carrière missionnaire. Mais parfois, ça va vite. Mais parfois, ça va long. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu, de la paix de Dieu, pour savoir quand il faut aller vite et quand il faut accompagner long. Mais Dieu donne pas seulement la paix, mais il nous donne la sagesse. Donc, je laisse cette dernière diapo. Jésus est le Seigneur. Est-ce qu'il est porte? Jésus est le bienfaiteur. Il nous fait tous les jours compter les bienfaits de Dieu. Jésus, il est ressuscité. Il est vivant. Jésus, il est le seul sauveur. Et il est le juge. Et nous m'oublions. Nous allons prier. Père Céleste, merci d'avoir pris l'initiative d'envoyer ton Fils. Merci d'avoir envoyé ton Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Merci parce que Jésus, aujourd'hui, il est Seigneur, bienfaiteur, sauveur, ressuscité et juge. Et nous te prions de nous aider, Seigneur, à vraiment faire de Jésus le Seigneur de notre vie aujourd'hui et dans tous les domaines, dans tous les points de notre vie. Nous voulons qu'il règne partout. Et nous tenons aussi à te remercier pour tout le bien que tu nous fais. Jour et nuit. Merci parce que tu es bon. Et nous voyons ta bonté tous les jours. Merci Seigneur pour ce que nous te prions de nous accompagner tout au long de cette semaine. Tu vois nos challenges. Tu vois nos difficultés. Tu vois les rencontres que nous aurons. Tu vois le travail, tu vois la santé, tu vois la famille. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi et aide-nous à faire de toi le Seigneur dans tous ces domaines. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.